Rocky IV, c'est l'uppercut définitif de l'oncle Sam contre les soviets, et c'est surtout génial pour plein d'autres raisons.
Carte d'identité. Titre.
Rocky IV.
Genre.
Film sportif politisé.
Acteur, scénariste et réalisateur.
Sylvester Stallone.
Date de sortie.
27 novembre 1985 aux États-Unis.
Signe caractéristique.
La bannière étoilée s'oppose au marteau et à la faucille sur un ring de boxe.
Rocky IV, get ready for the next world war.
En 1985, Sylvester Stallone est plus qu'une star de cinéma. C'est un monument de la culture américaine. Depuis le succès du premier Rocky en 1976 et de ses suites, cet Américain d'origine prolétaire s'est progressivement transformé en poids lourd de l'industrie du rêve. Le parcours de Stallone se confond avec celui de son alter ego fictif. Le boxeur Rocky Balboa s'est échappé de la misère de Philadelphie pour conquérir le titre de champion du monde dans sa catégorie.
It's kind of autobiographical. Of course, I've never been a professional fighter, but I thought the fighting would be a good symbolic representation of what it's like to fight your way up and fight for your dreams.
Sylvester Stallone, comme Rocky, incarne désormais l'Amérique des gagnants. L'année 1985 le consacre au sommet du box-office, avec deux grosses productions marquées par une idéologie très va-t-en-guerre. Après Rambo 2 qui voit le vétéran arracher une victoire symbolique contre l'ennemi communiste, Stallone repart au combat à l'automne, cette fois avec Rocky. Après trois films, il lui reste encore un adversaire à affronter.
Aujourd'hui, l'Union soviétique entre officiellement dans la boxe professionnelle. Le capitaine Ivan Drago est venu ici en Amérique avec ses entraîneurs pour entrer dans une compétition internationale de haut niveau.
Un combat entre le monde libre et la menace soviétique, voilà la promesse de Rocky IV. Lors d'un match d'exhibition, le géant russe tue Apollo Creed, le meilleur ami de Rocky. Les prochains rounds de l'étalon italien auront une saveur de revanche personnelle contre
le grizzly de Sibérie, Ivan Drago.
Le match ne sera pas homologué. Rocky va devoir mener le combat à Moscou, le soir de Noël dans une arène déchaînée et hostile où trônent les portraits de Marx et Lénine.
Je vais te briser.
Rocky IV s'impose dès sa sortie comme le porte-drapeau de l'administration de Ronald Reagan. L'ancien acteur devenu le 40e président des États-Unis va réaffirmer tout au long de ses deux mandats la toute-puissance américaine.
We are on our way back. And I like that fighter Rocky Balboa. America is getting stronger now.
Son discours patriotique et hostile à l'égard de l'Union soviétique va contaminer Hollywood. Au premier degré, Rocky IV porte tous les stigmates, ou plutôt les traces de lutte, de cette politique impérialiste. Dans le climat de guerre froide ravivé par des tensions, le film triomphe dans les salles de cinéma du monde entier. Le public, majoritairement adolescent, se rallie à la cause de Rocky, même si la critique torpille le film pour son discours manichéen. Avec le recul, Rocky IV s'impose comme un divertissement d'une efficacité à toute épreuve, ultra rythmé et entraînant. C'est surtout un pur produit de son époque. Le film est monté comme un long clip visuel avec une abondance de scènes musicales à l'heure où MTV s'impose dans le paysage culturel. C'est le triomphe d'une certaine conception du cinéma populaire américain des années 80. Rocky IV reste un film clivant qui brille autant par ses dérives kitsch, sa surenchère permanente, que pour son côté jouissif et décomplexé. C'est un plaisir coupable dénué de cynisme, un film un peu naïf à l'image de son héros, qui en profitera d'ailleurs pour lancer une ouverture au dialogue entre les peuples.
C'est que si moi j'ai changé, que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer.
Rocky annonce en quelque sorte la fin de la guerre froide. Et ça, c'est vraiment génial.
C'est à moi d'en juger.
Eh bien, c'est à nous aussi d'en juger. Merci beaucoup, Arten Touhed. Et pour en discuter avec nous ce matin, il y a, je ne pourrais la faire qu'une fois celle-là, dans le coin droit, Frédéric Gimelo, Méplon, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur des universités en sociologie du cinéma et de la culture. Vous avez aussi dirigé la publication Le cinéma des années Reagan, un modèle hollywoodien qui est paru aux éditions du Nouveau Monde. Et dans le coin gauche, il y a Boris Zamès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à SoFilm et rédacteur en chef du site Gone Hollywood qui passe au crible justement tous ces monuments du cinéma des années passées. Alors messieurs, bienvenue. Petit round d'ouverture pour vous. Selon vous, votre opinion personnelle, Rocky IV est-il vraiment l'opus le plus génial de la saga? Et si oui, pourquoi? Attention, je ne veux pas de coups sous la ceinture du champion. Qui s'y colle?
Voilà, je prends la manche là pour ça.
Allez-y.
C'est le plus connu de la saga, c'est le plus iconique, je pense le plus réussi aussi, même si il n'y est pas exemple de défaut, mais c'est vraiment le symbole de cette réussite qu'est la saga des Rocky. On en reviendra tout au long de l'émission, très certainement.
Boris?
Oui, pour moi, c'est vraiment le film le plus génial parce qu'il est. Il est tellement mauvais qu'il en devient très intéressant et magnifique. En fait, c'est un film qui porte les stigmates de son époque, mais c'est un film qu'on a un peu trop vite fait de cataloguer comme une œuvre de propagande.
Oui, ben justement, on va peut-être rester là-dessus parce que ça a été évoqué dans la capsule. Il faut peut-être rappeler un peu plus précisément dans quel climat politique sort le film en 1985, hein, avec un président qui est en guerre idéologique contre l'Union soviétique et qui est lui-même ancien membre du sérail hollywoodien. Alors, est-ce que Hollywood va épouser consciemment la vision de Reagan ou bien est-ce que c'était inévitablement dans l'air qu'on ait ce genre de film à ce moment-là?
Je dirais que c'est plutôt Reagan qui épouse la vision du film, et pas le contraire. Il faut rappeler, on a un chercheur qui est assez connu, qui est Marc Ferro, qui a écrit beaucoup de choses sur l'analyse de film, analyse de société, qui ne réduit pas le film à un simple reflet d'une histoire, mais le film est aussi un agent de l'histoire, c'est-à-dire que le film peut donner une impulsion, te donner une influence à l'histoire, et c'est ce qui se passe avec plusieurs films qu'incarne Stallone, notamment celui-ci, mais également Rambo 2, oui. Puisque le président américain de l'époque, Ronald Reagan, s'inspire à plusieurs reprises dans ses allocutions publiques, télévisées, de séquences du film ou de dialogues du film pour justifier son action politique.
Donc on a vraiment un film qui va influer sur le réel dans ce cas-ci.
Exactement. Il ne faut pas oublier que l'époque est très clivée aussi au niveau de la guerre froide. On est dans un durcissement de la guerre froide au début des années 80. Mm-hmm. Aux États-Unis, on a donc Ronald Reagan. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être président, il a été gouverneur de Californie. Et avant d'être gouverneur de Californie, il a été l'influent président du syndicat des acteurs hollywoodiens. Une position qu'il occupe durant toutes les années 60, avant de devenir gouverneur de Californie dans les années 70, puisqu'on est sur la RTBF, n'est-ce pas? En tant que président du syndicat des acteurs, il a joué un rôle considérable dans la commission pour l'épuration, vous savez, la commission McCarthy.
Bien sûr.
Voilà, dans les années 50 et 60, puisqu'il y a une flambée de paranoïa anticommuniste à l'époque. Et Ronald Reagan, en tant que président du syndicat des acteurs, va jouer un rôle considérable dans ce rôle-là, qui n'est pas un rôle de cinéma pour le coup. C'est un vrai rôle qui va jouer dans la, entre guillemets, vraie vie. Et puis, d'un autre côté, côté français, on a le début des années 80 est marqué également par une crainte. Les Américains ont peur que le nouveau président de la République, François Mitterrand, qui vient de faire rentrer au gouvernement quatre ministres communistes en 1981, n'oublions pas que là aussi, c'est une première dans l'histoire de la gauche française. Hein, le Parti communiste qui fait une alliance avec le Parti socialiste dans les années 70 et dans les années 80. Donc on a ce gouvernement qui est marqué par la crainte, en tout cas pour les États-Unis et la CIA s'inquiètent de cette... oui, bien sûr... De cette crainte du retour du parti communiste sur une république de l'Europe de l'Ouest. Mmh. Et donc ça va créer le terreau favorable à toutes les crispations qu'on a pu lire dans la presse et très certainement, ouais. Voilà, tout au long de ces années 80.
Effectivement, et c'est vrai que voilà, toutes ces problématiques sont bien réelles dans l'esprit des gens, c'est quotidien, on en parle dans les journaux, on en parle à la télévision, et c'est pas un hasard non plus s'il y a beaucoup de films sortis à la même époque qui sont des déclinaisons de cette tension avec plus ou moins d'ogives nucléaires à chaque fois dedans. On a War Games en 83, on a Octopussy voilà, de la saga James Bond, on a Le Jour d'après, on a L'Aube Rouge, Invasion USA avec Chuck Norris qui casse la figure à tout le monde. Boris, est-ce que dans ce climat-là, à ce moment-là, il y a une soif du public pour un discours peut-être plus manichéen et qui est très limpide finalement dans Rocky IV dont on parle aujourd'hui?
Oui, tout à fait. En fait, avec Rocky IV, Stallone va entrer dans l'histoire comme beaucoup de ses contemporains et il va quelque part revisiter l'histoire, c'est-à-dire que dans les années 80, du moins au début, Hollywood va se retourner un peu vers son passé. On peut dire, si on exagère un peu, qu'on est dans un contexte de on est en guerre froide. Mm-hmm. En fait, l'Amérique est en guerre et l'Amérique veut briller. Donc, notamment, la même année que Rocky IV, il y a Retour vers le futur qui sort. C'est un indice très, très fort. Et puis, on a aussi tous ces films patriotiques qui doivent asseoir la domination américaine sur le monde et sur l'URSS. Donc, oui, il y a L'Aube rouge, il y a Rambo 2, Portée disparue, les films de la canon. Et quelque part, Rocky IV va ouvrir la voie à un autre film ultra patriotique et qui va peut-être être l'un des derniers gros succès dans son genre, c'est Top Gun.
Oui, tout à fait. Néanmoins, vous disiez que pour vous, c'est pas un film de propagande, malgré ce qu'on a pu dire dessus.
Alors, oui, on peut un peu nuancer, selon moi, parce que toutes les critiques, même les Radio Awards qui ont garanti un certain mauvais succès au film, oublient une chose, c'est qu'en fait, il y a une gentille critique de toute la génération Reagan. Alors certes, Rocky est un ambassadeur du rêve américain depuis le milieu des années 70. Mm-hmm. C'est un petit prolétaire qui est devenu un bourgeois qui vient donner une leçon aux soviétiques. Ok, mais on peut trouver des nuances. Notamment, on peut les trouver dans la novélisation de Rocky 4, oui, qui a été écrite par Stallone lui-même. Mm-hmm. Et en fait, dedans, il décrit notamment la débauche d'argent lors des matchs en Amérique. Il apprend aussi à respecter les Russes en vivant à la dure comme eux lors de la séquence d'entraînement dans la neige. Et il décrit donc cet entraînement très primitif qui peut rappeler un peu les conditions des premiers colons aux États-Unis. Et il se met à comprendre quelque part la souffrance d'un peuple, des Russes qui ont été victimes des nazis, qui ont été combattus aussi par les Américains dans les années 40.
Mmh. Donc il y a quand même un sous-texte un peu plus nuancé, effectivement, mais qui n'apparaît peut-être pas dans le film, où il faut aller creuser un peu plus dans toute la littérature autour du film. On va peut-être rester justement sur Stallone, parce qu'on ne peut pas dissocier Rocky de Sylvester Stallone. Ils sont finalement une seule et même personne, vu que c'est sa propre histoire, vous l'avez dit, il l'a écrite pour lui. Il avait même coutume de dire que Rocky, c'est sa part de lumière, là où Rambo, c'est son côté obscur. Alors on ne va pas s'attarder sur John Rambo ici, sinon on va y passer la journée. Mais Rocky, finalement, c'est comme Stallone. Hein, c'est ce second couteau en qui personne ne croit, qui va se retrouver propulsé au sommet. Et ça suit, finalement, la saga des Rocky suit la courbe même de la carrière de Stallone. Donc finalement, est-ce que c'est un dédoublement? Est-ce que Rocky et Sylvester Stallone se sont portés l'un l'autre?
Oui, bien sûr. C'est l'un des succès. C'est l'un des moteurs du succès de cette série. C'est qu'on a en creux, en miroir, la propre carrière de Sylvester Stallone à travers le personnage qui est incarné à l'écran. Mm-hmm. Faut pas oublier que dans les années 70, il débute en étant un acteur de série B, de petits rôles, et il va écrire pendant une période de chômage le scénario de Rocky 1, du premier opus de la saga. Et lorsqu'il va trouver enfin quelqu'un pour lui acheter, la première chose que vont décider les producteurs, c'est de confier le rôle à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc on imagine à l'époque Robert Redford pour incarner le personnage. Et il va se battre, y compris contre ses propres producteurs, pour incarner lui-même le rôle. Il ne faut pas oublier qu'il a un défaut physique. Il est aussi handicapé partiellement du visage, hein, c'est pour
il
ça aussi
paralysé,
qu'on a. Il est paralysé, c'est une paralysie de naissance. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi cette bouche un petit peu déformée, qui peut aussi, dans l'univers des salles de boxe, rappeler peut-être aussi une blessure, mais en fait, c'est lié à une déformation de naissance. Et tout ça, ça va contribuer aussi au mythe qu'a rappelé tout à l'heure votre invité. Mm-hmm. Et je confirme, effectivement, on l'a un peu trop catalogué, ce film, comme étant un film de propagande. Une seconde lecture permet de déceler des petites pépites, effectivement, un certain nombre de critiques anti-américaines qui sont d'ailleurs beaucoup plus nombreuses dans la série des Rambo, d'ailleurs dans Rambo 2, qui est une véritable critique des élites et de la trahison de la société américaine par les élites politiques, militaires, voilà. Mmh,
oui. Il y a une analyse, effectivement, il y a une écriture qui est plus fine que ce qu'on pourrait imaginer par-dessous les images. Et c'est vrai que voilà, Sylvester Stallone va rester à la manœuvre sur toute la saga. Il va écrire, il va piloter, il va réaliser. Il a un regard très précis sur ce qu'il veut. Pourtant, dans l'imaginaire collectif francophone, Sylvester Stallone, c'est aussi ça.
Alors messieurs, la situation en Bosnie est inextricable. À votre avis, est-ce qu'il y a une solution politique?
Non. Faut tout péter.
Dieu est mort, le communisme est mort, l'homme reste seul face à l'homme. Et il montre en Croatie son incapacité à porter le poids de la liberté.
C'est vrai, c'est des cons.
Solution politique, il faudrait. L'humanitaire, il faut. Le militaire, il faudra.
commandant.
Ouais, pareil. Faut leur péter la gueule.
Donc, selon vous, il faut intervenir militairement.
Oui, les mots ne suffisent plus. Aujourd'hui, il faut se battre.
Ouais.
Il faut aller sur le terrain.
Ouais.
Utiliser la force contre la force.
Ouais.
Alors vous aurez reconnu évidemment la marionnette de Monsieur Sylvestre dans les guignols de l'info face à celle de BHL et de PPDA. Alors cette marionnette, on le sait, hein, c'est une synthèse finalement de Rambo, de Rocky, de toute cette Amérique période Reagan. Néanmoins, est-ce que cette caricature que le public francophone a eu dans l'œil et dans l'oreille pendant des années n'a pas un peu éclipsé l'artiste qu'est Sylvester Stallone ?
Certainement.
Alors, si
Stallone a été Oscar du meilleur scénario en 76, il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Il faut pas oublier dès que son premier opus et le côté créateur, celui qui va créer le personnage et l'écrire, n'a jamais vraiment été reconnu à sa juste valeur par le public autant européen qu'américain. Et l'un des combats de Stallone, ça a été de se battre justement pour une reconnaissance par le cercle hollywoodien. Il ne faut pas oublier qu'il a eu les Golden Globes l'ont consacré en 2016 meilleur acteur. C'était pour la première fois. Je crois que ça a été la plus grande consécration de sa carrière.
Mmh. Boris ?
Oui, j'ajouterais en fait qu'il a été donc les Guignols ont fait énormément de mal à Stallone et on oublie aussi que c'est un peintre, donc c'est un scénariste, mm-hmm. un romancier qui réalise également. Mais je pense que quelque part cette image peut-être alors là au-delà de l'Europe a pu lui servir parce qu'il se sert énormément de l'image du martyr. Et pour revenir à Rocky IV, en fait, Rocky IV a une dimension très christique. D'ailleurs, on le voit ce martyr sur l'affiche où il est drapé dans le drapeau américain. On le voit également dans la séquence d'entraînement où il porte donc une grosse bûche. On a l'impression qu'il porte sa croix. Donc c'est vraiment une image qui va rester, dont il va se servir jusque dans la promo du film, puisqu'il va expliquer qu'il s'est blessé, qu'il a frôlé la mort. Donc oui, c'est un véritable parcours du combattant. Quoi.
Mmh, mmh. Et c'est vrai que la série des Rocky, finalement, elle correspond à des codes bien précis. Hein. Quand on va voir un film, on sait exactement ce qu'on vient chercher, on sait ce qu'on va y voir. Il y a un héros qui a un problème, qui va parcourir un long chemin de croix. Donc c'est vrai que l'image du martyr est vraiment là. Et quand même, quoi qu'il arrive, il va triompher à la fin. Et on le sait déjà en allant s'asseoir dans la salle de cinéma. Donc est-ce que Stallone, finalement, sans le savoir, ou peut-être en le sachant, justement, a réinventé la catharsis, mais au code des années 80 ?
Alors plutôt, il a fait revenir au code des années 70, en fait. Parce que la vision sacrificielle du héros, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une classe populaire, qui a tous les handicaps contre lui au départ, c'est quelque chose qui est très cartérien, plutôt que reaganien, finalement. Mmh. C'est les années... Regardez, il y a un film qui est très proche de ça, c'est Superman. C'est le Superman, et vous avez le héros de Superman dans la vie de tous les jours, c'est pas quelqu'un qui brille de manière exceptionnelle. Et donc, on a ce côté... handicap de départ, qui incarne en fait le rêve américain. Le héros de Rocky, c'est le rêve américain, mais de notre côté, le rêve américain, tel qu'il a été promu par les hommes politiques américains depuis des décennies, y compris bien avant Reagan, c'est aussi un pays qui permet à tout un chacun de pouvoir réussir et qui donne sa chance aux plus faibles.
Mmh. Tout à fait. Alors Rocky IV, il a 37 ans d'âge aujourd'hui. Il a beaucoup de scories aussi. Il y a des excès, il y a du kitsch, il y a cette esthétique très très vidéoclip, un message génialement simplifié, mais qui parfois peut sembler simpliste. Des modèles masculins aussi qui ne survivraient pas, à mon avis, dans la jungle de 2022. Alors pourquoi revoir Rocky IV aujourd'hui ? Et on se quittera là-dessus. Boris, peut-être ?
Alors moi, je vais être plutôt prosaïque. Je pense qu'il est très contemporain parce qu'on a un monde, enfin, on assiste à un changement de paradigme sur l'échiquier politique aujourd'hui, où donc on a un monde qui est très manichéen, très bilatéral, et c'est le monde de Rocky IV. Et d'ailleurs, il faut savoir, donc là, je fais référence à la guerre en Ukraine. Stallone a des origines ukrainiennes, donc il suit de près cette actualité-là. Et en plus, ce qui permet de relier Rocky IV à notre époque, c'est que parmi les Russes qui ont découvert la VHS à l'époque, les Soviétiques qui ont découvert la VHS de Rocky IV, il y a un certain Vitali Klitschko, qui est le maire de Kiev et qui est actuellement engagé sur le front contre la Russie.
Mmh. Frédéric ? Pourquoi
oui, c'est très juste. C'est une histoire universelle, Rocky IV. Regardez, c'est l'histoire qui touche tout un chacun. Et lorsque nous avons écrit l'ouvrage Le cinéma des années Reagan avec cette équipe d'universitaires, on a interrogé des centaines de fans de la série qui nous ont tous dit de manière quasi unanime, hein, c'est un film qui nous a aidé à réussir, soit nos études, soit à guérir contre une maladie, etc., qui a été un moteur de courage et d'abnégation pour beaucoup de jeunes fans de cette époque-là. Il faut pas oublier aussi que la musique du film est signée Bill Conti, qui est lui aussi. On parlait tout à l'heure de Rocky et de Stallone, hein, qui incarne le premier rôle, mais le compositeur Bill Conti est à l'identique, a une carrière similaire à celle de Stallone, puisqu'il était immigré italien, il faisait l'orchestration des films de Western Spaghetti de Sergio Leone dans les années 60 et 70, et dans les années 80, il acquiert la renommée avec ce film, ainsi que tous les films de John Avildsen, Karate Kid, etc., qu'il va mettre en musique également.
Mais c'est un excellent argument.
C'est dommage qu'on n'ait pas écouté un petit morceau musical.
Eh bien, figurez-vous qu'on peut en avoir un, normalement. C'était
Parfait.
Justement ce qu'on était en train de chercher.
Yes, merci.
On va se quitter d'ailleurs là-dessus. Ça, c'est la musique, effectivement, du combat final. Et pour la petite histoire, Stallone avait d'ailleurs écrit un script entièrement détaillé, rien que pour cette séquence, parce qu'il avait fait écrire la musique d'abord et caler la chorégraphie du combat sur la musique ensuite.
Exactement.
Preuve de plus que Rocky IV, finalement, c'est vraiment un très très long clip esthétique. Et c'est sur tas d'arguments de chaos technique qu'on va se quitter. Pour vous refaire le match, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et bien vous replongez dans Rocky IV. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Gimelot-Méplon. Merci Boris Damès d'avoir été nos invités ce matin pour ce match amical.
La première,
9h-10h,
c'est génial.